êtes bien à l'écoute Radio Pleine Lune, Radio Zone 93.8 MHz comme tous les mercredis. Nous allons commencer notre émission avec les informels, les nouvelles. Et à 19h sera suivi le Memento de Marjolaine. Alors à tout de suite les nouvelles. Au Bangladesh, les femmes du Bangladesh à l'ombre des fatwas. Avec les intellectuels Taslima Nasrin, Ahmed Sharif condamnés à mort, les femmes sont les premières cibles des fondamentalistes bangladais. Dans les villages, surtout, l'islam militant est souvent utilisé à des fins de vengeance personnelle. Un procès d'État pour insulte aux sentiments religieux contre la romancière Taslima Nasrin, réfugiée en Suède et condamnée à mort par des intégristes musulmans du Bangladesh, doit s'ouvrir le 8 février à Dhaka. Mais les fatwas ne menacent pas que les intellectuels. Dans les zones rurales, les femmes et les pauvres sont les premières victimes du fanatisme religieux encouragé par le conservatisme des dirigeants locaux. Nour Jahan est née en mars 1971. En janvier 1993, la jeune ouvrière agricole s'est empoisonnée après avoir été lapidée et ses parents battus en public. Accusée d'avoir offensé la charia, la loi islamique, Nour Jahan venait d'être condamnée par la Salij, le conseil traditionnel de son village, présidé par le plus important et influent propriétaire terrien local, le Mollah, et des voisins, lesquels l'ont renvoyée chez elle sous les injures en lui conseillant d'en finir. Le récit de son père, Nour Jahan a été abandonnée par son premier mari, j'étais trop pauvre pour la nourrir, il fallait qu'elle se remarie. J'ai donné 150 takas, 4 jours de salaire, au Mollah pour qu'il annule la première union. Il a accepté. Mais peu après le second mariage, il est venu ici, le Coran à la main, nous dire qu'il n'était pas conforme à la charia et que nous serions punis. Sur la pression d'organisations de défense des femmes nombreuses en Bangladesh, la justice a été saisie et les bourreaux de Nour Jahan condamnés à 7 ans de prison à l'issue des débats qui ont, plus que l'affaire Nasrin, touché l'opinion. L'avocat de la famille de Nour Jahan s'occupe de cas similaires au sein de Mahila Parishad, une association de défense des femmes. Une autre, Nour Jahan, accusée d'adultère par un salij, a été brûlée vive en mai 1993. Ajoute-t-il. Depuis environ 3 ans, la liste des femmes lapidées, battues et menacées s'allonge, souligne le bureau d'Amnesty International à Dhaka. Dernier cas en date, l'histoire tragique de Rina ressemble à celle de Nour Jahan. Accusée d'adultère, la jeune femme qui vivait près de Sylhet s'est suicidée après avoir reçu 101 coups de canne le 16 décembre 1994. Pauvres, peu éduquées, les femmes des zones rurales sont des victimes faciles à travers lesquelles se règlent aussi des conflits d'intérêts, terres, vengeance personnelle, qui n'ont pas toujours grand-chose à voir avec le respect de la charia. Rémunérées par les villageois, les mollahs sont souvent dans la sphère d'influence des dirigeants locaux, les principaux propriétaires fonciers, qui ont la main mise sur la vie socio-économique du village et prêtent aux pauvres. Les mollahs qui dirigent la madrassa, les écoles coraniques, où les enfants reçoivent une éducation religieuses et généralistes sont, eux, concurrencés par des programmes de scolarisation et d'alphabétisation d'ONG comme BRAC, Bangladesh Rural Advancement Committee ou ProShika. Beaucoup de filles, 71% disons des étudiants, des écoliers de ces écoles, sont des filles mieux éduquées. Elles développent ensuite un petit artisanat. Avec le prêt raisonnable de BRAC, Hamela, par exemple, a acheté une machine à coudre. Grâce à ses revenus, elle nourrit sa famille et envoie sa fille à l'école. Les plantations de mûriers destinées à créer un petit artisanat de la soie pour les femmes les plus démunies sont très critiquées par les fondamentalistes. Depuis 2 ans, une centaine d'écoles ont été brûlées, des professeurs battus et menacés et plus de 500 000 mûriers coupés, selon BRAC et un responsable d'Amnesty International. À Taïwan, la réussite des femmes se fait avant tout dans les affaires. Elles boudent de la politique, préférant faire des affaires. À Taïwan, personne ne rêve d'être femme au foyer. les femmes à Taïwan ont réussi à obtenir une autonomie économique par leur travail et leur dynamisme, qu'elles pénètrent en professionnel tous les domaines de la société. Mais là où elles brillent, c'est dans les affaires. Après avoir été chargées des cordons de la bourse familiale, elles gèrent banques et fiduciaires quand elles n'ont pas leurs propres entreprises. L'enjeu leur semble tellement important qu'il est devenu d'usage courant de confier les enfants aux grands-parents ou à du personnel de maison. Prises entre tradition et progrès, les Taïwanaises jonglent avec des valeurs diamétralement opposées. La politique reste toutefois un bastion masculin. Un club dans lequel les femmes ne sont pas accueillies à bras ouverts. Elles ne sont pas invitées aux réceptions, aux parties de golf, où sont discutés les principaux événements. À 70 ans, Cecilia Choyu Nienku, présidente d'un nombre impressionnant d'associations féminines, ne s'en inquiète guère. Elle dit « Il y a 15 ans, les banques n'auraient jamais accepté une employée chargée de famille. Maintenant, près d'un millier de femmes sont présidentes ou directrices de grandes entreprises. Nous avons conquis l'égalité des droits dans l'éducation, le travail. L'important aujourd'hui, c'est de faire régner la paix dans la société, dans la famille. À quoi bon se lancer dans l'arène politique ?» Et pourtant, c'est en participant à la vie politique que la femme pourra améliorer sa situation familiale, rétorque Dagmar Minyayou. Cette avocate se bat pour modifier les clauses du divorce. La révision de 85 a en effet laissé subsister une clause qui fait bondir les femmes. En cas de divorce, la garde des enfants est confiée automatiquement au père du seul fait qu'il porte son nom. Le problème revêt une importance particulière aujourd'hui que le nombre de divorces explose littéralement. Pionnière de la cause féminine, la députée Suilien Annette Lou pousse également les femmes à se lancer dans l'aventure politique. Cette avocate, qui a organisé à Taipei en février 1994 le troisième sommet mondial des femmes, a été élue en 1992 députée au Parlement. Russie, de passage à Genève, Elena Bonner demande l'arrêt de l'aide occidentale à Moscou. Elena Bonner, veuve du célèbre académicien résistant André Sakharov, a prononcé ce mardi un plaidoyer pour le respect du droit humanitaire en Tchétchénie devant la Commission des droits de l'homme. Revenant de Grozny, elle a demandé aux pays occidentaux de cesser leur aide au gouvernement russe qui porte la responsabilité de la guerre en Tchétchénie, comme elle le dit, afin d'obliger le Kremlin à un cessez-le-feu, seule condition pour l'ouverture de négociations. Si notre pays était réellement démocratique, affirme la militante des droits de l'homme, il aurait accepté de négocier aussi longtemps que cela aurait été nécessaire. Si Boutros Ghali affirme que la guerre en Tchétchénie est une affaire intérieure, poursuit Elena Bonner, alors qu'ils mettent la Déclaration des droits de l'homme au panier et qu'ils suppriment les conventions de Genève. Nous ne voulons pas vivre dans un monde limité par une gigantesque bureaucratie. Grande-Bretagne, les mamies terribles font les 400 coups. Tribulation de deux septuagénaires anglaises qui ont fugué 3 ans durant. Devenus les retraités les plus recherchés en Grande-Bretagne, mais finalement rattrapés par la police après une fugue de 3 ans, deux sœurs septuagénaires ont assuré qu'elles s'étaient amusées comme jamais et n'avaient aucun remords. Les aventures de Winifred Bristouf, 76 ans, et de sa sœur Joan Payne, 74 ans, toutes deux grand-mères ont débuté en 1992 lorsqu'elles ont fait la connaissance d'une dame charmante de 51 ans qui est vite devenue leur amie et leur a proposé de les emmener dans ses pérégrinations. Spécialiste des escroqueries aux cartes bancaires et aux chéquiers volés, la charmante dame menait grand train allant de palace en palace au Royaume-Uni ou en Irlande en compagnie de sa fillette et des deux mamies. Recherchées par la police, toutes quatre se déplaçaient constamment et sont passées à travers les mailles du filet pendant près de 3 ans. La fugue s'est terminée mardi dernier dans un cottage isolé du Suffolk où Winifred et Joan ont été retrouvés par la police. Je suppose qu'il nous faut retourner à nos tricots, a admis Winifred. Avant de se confier aux journalistes, c'était comme de très grandes vacances. Chaque minute en valait la peine et on recommencerait si la chance se présentait. Aucune charge n'a été retenue contre les deux vieilles dames. Pour elles, la fête est finie, a déclaré un policier. Discovery, c'est une femme qui est commandant de bord. À 38 ans, Aileen Collins devient aujourd'hui la première femme à piloter une navette spatiale américaine. La lieutenant-colonel Aileen Mary Collins a rejoint l'armée de l'air en 1976 à 19 ans. Elle a aujourd'hui à son actif plus de 4000 heures de vol sur 30 types d'appareils. 19 femmes ont déjà effectué des missions dans l'espace, mais jamais aucune n'a eu la responsabilité de piloter une navette spatiale. En France, des médecins sont accusés de curieuses pratiques anti-avortement. Pour des motifs moraux, religieux, des gynécologues tairaient à leurs patientes que le bébé qu'elles portent souffre d'anomalies décelées à l'échographie. Ils les privent ainsi du choix d'interrompre la grossesse. À Marseille, c'est un petit garçon qui naît sans bras droit. Aux Assions, en Ardèche, une fillette vient au monde privée de ses avant-bras. Dans les deux cas, les mères se sont soumises à plusieurs échographies durant leur grossesse. Les médecins contre lesquels les parents ont porté plainte reconnaissent avoir commis une faute professionnelle, une erreur humaine. Je suis sûre qu'il ne s'agit pas de cela. J'ai la conviction intime que mon gynécologue a vu l'anomalie de ma petite fille, mais qu'il a décidé délibérément de ne pas pouvoir m'en parler, pour m'empêcher d'avoir le choix d'avorter ou non. C'est une question d'éthique personnelle. Il a fait cela au nom de convictions morales, peut-être religieuses. Profondément choqués, les parents de cette fille ont porté l'affaire devant la justice. Nous sommes entrés en contact avec de nombreux parents dans la même situation, poursuit la mère. Mon gynécologue, il y a 2 ans, n'a pas signalé que le petit garçon d'un couple que nous connaissons avait les pieds beaux. J'en suis certaine, comme dans mon cas, il a vu, mais n'a rien dit. Dans ma chambre, après l'accouchement, il m'a demandé « Si vous aviez eu le choix, vous auriez avorté, n'est-ce pas ?» Je lui ai répondu que je n'en savais rien, mais que le choix appartenait à mon mari et moi uniquement. Des cas semblables, la jeune mère en cite plusieurs. Telle femme a subi 7 échographies, telle autre 8. Leurs gynécologues n'ont rien discerné de particulier. Et les bébés sont nés avec des anomalies graves. Les parents n'arrivent en général pas à croire à une erreur de diagnostic. Une enquête de l'Institut d'études démographiques françaises démontre qu'à 21 ans, 72% des filles, mais seulement 54% des garçons, ne vivent plus chez leurs parents. En fait, un tiers des filles ont déjà quitté le foyer à 19 ans, contre 20% des garçons. Si les filles quittent le nid familial plus tôt que leurs frères, c'est parce qu'elles n'attendent pas d'être indépendantes économiquement pour s'installer en couple. Elles comptent sur le revenu du conjoint ou du concubin. Tandis que les 3/4 des garçons tiennent d'abord à gagner leur vie. Une minorité de jeunes filles et garçons quittent aussi le foyer pour faire des études. La moitié d'entre eux, mais surtout les filles, sont aidées financièrement par leurs parents. Un premier départ ne signifie pas nécessairement une rupture définitive du cordon ombilical. Bon nombre de jeunes reviennent au bercail une fois leurs études terminées en cas de chômage, d'échec professionnel ou conjugal. La famille reste donc un refuge. En Égypte, plus de 10 000 couples, la plupart du temps très jeunes, se marient dans les commissariats chaque année pour échapper aux foudres des parents susceptibles de tuer leur fille si elle a été déflorée avant le mariage. Des nouvelles suisses, avortement, le débat est relancé au Parlement. Le droit à l'avortement sort de l'ombre. Le Conseil national a accepté de donner suite à une initiative parlementaire préconisant la solution des délais. Le Conseil national a donné un premier signe d'ouverture à la libéralisation de l'interruption volontaire de grossesse en acceptant de donner suite à l'initiative parlementaire de la socialiste zurichoise Barbara Hiring-Binder. Cette initiative demande que l'IVG ne soit pas punissable durant les premiers mois de la grossesse. Elle implique une révision du code pénal qui interdit l'avortement et punit de prison la femme qui transgresse la loi. Malgré le vote positif de la Chambre basse, l'opposition à une légalisation de l'IVG demeure forte. Seuls les socialistes et les écologistes sont unanimement pour, comme une majorité des radicaux. Les associations favorables au droit à l'avortement sont aussi donc favorables à un projet de loi qui met enfin fin à l'écart entre la loi actuelle très restrictive et la pratique libérale de la majorité des cantons. Le code pénal n'autorise l'avortement que si la grossesse présente une menace pour la vie de la femme ou une atteinte grave et permanente à sa santé. Dans ces cas, la femme doit obligatoirement consulter deux médecins pour obtenir l'autorisation d'avorter. Cette loi fait de la Suisse un des pays les plus sévères d'Europe en la matière et ses dispositions date de 1942. Plus de 12 000 avortements sont cependant pratiqués chaque année en Suisse et depuis 1988, plus aucune condamnation n'a été prononcée. Il faut aussi savoir qu'une femme sur cinq avorte durant sa vie et 90% des avortements pratiqués se font dans les 12 premières semaines de la grossesse. Aujourd'hui, Nidwald, Obwald, Uri, Appenzellrode intérieur applique encore la loi à la lettre. Cette situation oblige les femmes de ces cantons à se rendre ailleurs pour se faire avorter. Valais, le bureau de l'égalité menacé. Selon la présidente de la commission cantonale valaisanne pour les questions d'égalité, la condition féminine ne s'est pas améliorée en Valais depuis la création du bureau de l'égalité en 1993. Son existence est même menacée dans le cadre de la réforme de l'administration cantonale. La faute en incombe en priorité au manque de coopération de la part des autorités. L'administration fait tout pour ralentir le travail du bureau et démontrer ainsi son inutilité, a-t-elle précisé, faisant part de sa déception face au manque de dynamisme qui règne en Valais sur la question de l'égalité. À Genève, un institut universitaire étudiera la femme. Étudiantes et étudiants pourront bientôt obtenir un diplôme supérieur en femme. L'enseignement sera interdisciplinaire et ouvert à une collaboration romande. Il y a 4 ans, Genève introduisait la promotion de la femme dans la loi sur l'université. Le canton se distingue cette année encore. En grand secret, l'université met sur pied l'Institut des études femmes. Préparé à la demande du rectorat par sa déléguée aux questions féminines, Anne-Lise Hedkönig, ce projet novateur, encore en discussion, devrait se concrétiser pour la rentrée d'octobre. Une première en Suisse. L'Institut des études femmes de l'Université de Genève devrait disposer de ses propres locaux. Anne-Lise Hedkönig pourrait bien en devenir la directrice. Son originalité tient à sa démarche interdisciplinaire. Toutes les facultés devront créer des enseignements et susciter des recherches autour des 3 grands axes. Femmes et savoir, femmes et société, femmes et politique. Seront abordés des thèmes tels que travail et sécurité sociale des femmes, femmes et formation ou encore l'État et les femmes. À la clé, un diplôme supérieur d'études femmes obtenu en 2 semestres. Martine Brunschwig-Graf, la chef libérale de l'instruction publique, vient tout juste de recevoir le projet. « Je ne suis pas une passionnée des structures. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu, dit-elle. Plus précisément, la façon dont l'Institut permettra de lutter, je cite, « contre toute ségrégation à l'égard des femmes et d'apporter à celle-ci une image dynamique. » La députée communiste Erika de Iberbopoli est plus nuancée. « C'est très bien que l'Uni veuille créer un enseignement sur un objet qui forme la moitié de l'humanité. Cela signifie qu'on cherche un moyen de sortir la femme de son état subalterne. Mais elle trouve aussi, bien curieux, qu'on en arrive là. Cela démontre l'insuffisance des pétitions de principes et des lois. » Le futur institut risque-t-il d'être perçu comme un ghetto ? C'est un mauvais argument, répond Martine Chaponnière, membre de l'association Femmes Féminisme Recherche et qui a fait beaucoup pour promouvoir les études de femmes à l'université. La question des femmes, continue-t-elle, n'est pas abordée ailleurs. Dans la recherche, par exemple, les rapports de sexe sont rarement pris en compte, contrairement aux rapports de classe. Le nouvel institut répondra autant à la volonté du législateur cantonal qu'à celle de Berne. La commission de planification de la conférence universitaire suisse a en effet érigé le développement des études féminines en priorité nationale pour les années 1996 à 1999. Bien plus, l'avenir de telles études sera débattu à Berne le 24 février prochain lors d'un colloque des universités suisses. À Genève, toujours des statistiques inquiétantes, 303 cas de violence conjugale ont été recensés en 1994 par la police genevoise. Toutes les victimes sont des femmes. Ce chiffre ne comprend pas les interventions, elles sont nombreuses, où les gendarmes sont appelés pour des bagarres de ménage. Par peur des représailles, peu de femmes déposent plainte. À Genève, toujours, les vendeuses des magasins d'EPAS Unis font une pétition à la direction. Contrairement à leurs collègues des autres cantons suisses, les employés des trois succursales de ce grand magasin EPAS Unis à Genève ne percevront pas le 1% d'indexation pour l'année en cours. Pour protester contre cette situation, une pétition signée par plus de 150 vendeuses a été adressée à la direction du groupe à Zurich et Genève. Quelques nouvelles de publications ou de séminaires qui pourraient intéresser les femmes. 14-15 février prochain aura lieu à l'IUED, l'Institut d'études et de développement, à la salle Anne-Marie Gay au 10 rue Richemont, donc à Genève, un séminaire de réflexion, des échanges, des débats sur le thème « Femmes, ville et environnement ». Quatre thèmes seront abordés, les femmes dans les grands bouleversements, l'égalité utopique, point d'interrogation, production alternative et environnement, l'environnement, le quotidien, les femmes et la décision. Si vous êtes intéressé par ce séminaire, je rappelle qu'il aura lieu le 14-15 février prochain, vous pouvez vous adresser à l'Institut universitaire d'études du développement, 24 rue Rothschild, le téléphone 731-59-40 et depuis Lausanne 022. Je vous rappelle aussi que le journal Femmes Suisses, le numéro de février, vient de paraître. Vous pouvez l'acheter dans les kiosques ou vous y abonner. C'est tout simple. Pour vous abonner à Femmes Suisses, il suffit de savoir le numéro de téléphone de Femmes Suisses. C'est donc à Genève, l'administration de Femmes Suisses, au 342. 64 60. Si vous téléphonez toujours de Lausanne, vous faites 022. Et le numéro de février, il y a un dossier important sur la violence contre les femmes, l'affaire des hommes. Une autre publication, ça s'intitule « Les cahiers de femmes d'Europe ». C'est une publication qui paraît toutes les années, plusieurs numéros, et ce numéro 42 qui vient de paraître, qui s'intitule « L'inventaire européen de l'action positive » qui a été écrit par Evelyne Sergenion, qui est un docteur en sociologie, et elle fait l'inventaire des actions positives qui ont été prises dans les secteurs privés et publics des États membres, donc de la communauté européenne, pour développer l'emploi des femmes. Si vous êtes intéressé à obtenir cette publication, vous pouvez écrire à Unité Information et Projet Grand Public, 200 rue de la Loi, 1049 Bruxelles, en Belgique. Radio Pleine Lune, Onde Femmes, c'était les informels, les nouvelles de Radio Pleine Lune. Une pause musicale avant la suite de notre programme, le Memento de Marjolaine. Restez à l'écoute sur 93.8 MHz. Donc après le Memento de Marjolaine, vous pourrez continuer à écouter de la magnifique musique de femmes sur 93.8 MHz.
Strada di paese, la voce di sua madre.